en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il est peintre et sculpteur, il est aussi documentariste et écrivain, notamment romancier. Mais c'est de bronze et de couleurs dont nous allons parler aujourd'hui avec Richard Texier, à la faveur de deux ouvrages qu'il publie chez Gallimard. L'un, intitulé « Animaux quantiques » et préfacé par le philosophe Michel Onfray, nous ouvre les portes d'un étrange bestiaire où l'hybridité se conjugue à la poésie et à l'imaginaire pour faire naître des objets en bronze utilitaires, des chandeliers, des lampadaires, des coupes ou des plateaux. L'autre ouvrage, « Codex », nous donne quelques codes pour comprendre son art à travers sept récits autour des couleurs. Les couleurs de sa vie et les couleurs de la vie tout court, puisque son imaginaire et donc son art sont avant tout issus d'une matrice organique, issue du monde végétal ou animal donc. Richard Texier est avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Richard Texier.
Bonjour.
Vos œuvres et votre codex nous font beaucoup voyager dans le réel et l'imaginaire, mais la première visite que vous nous offrez quand on ouvre Codex, c'est une visite à un marchand de couleurs, autrement dit, l'endroit où les artistes se fournissent en matériel et singulièrement en couleurs, et l'un de ces marchands de couleurs vous fait remarquer que vous choisissez toujours les mêmes couleurs. Vous en étiez jamais rendu compte avant?
Et non. Non, on se rend pas compte de ses préférences. On s'en rend pas compte pour une raison simple, c'est qu'elle s'installe tout doucement dans la vie.
À votre insu?
Oui, à l'insu de tout un chacun. Nos préférences, on les croit, c'est toujours étonnant ça, parce que on les croit liées à notre personnalité. On pense que c'est ça qui nous définit. Et en effet, ça donne un certain nombre d'éléments de choix, de préférences que les autres peuvent intégrer. Mais en réalité, ça dit pas le fond du pot. Parce qu'elles sont liées à des mythes fondateurs, à des rencontres, à des chocs émotionnels qu'on a vécu en général dans la petite enfance, mais pas toujours, parfois plus tard, et qui construisent peu à peu, singulièrement pour un peintre, ce qu'on appelle sa gamme de couleurs. La gamme de couleurs, en réalité, elle tombe pas du ciel.
Et donc, qui construisent aussi son identité d'artiste.
Voilà. Oui, c'est le vocabulaire de base. Et ce marchand de couleurs, Antoine Marin, me faire marquer ça, il me dit, mais tu prends toujours les mêmes couleurs, et tu sais, je vois ton bleu, c'est de l'indigo. On a un très beau bleu outre-mer, là, qu'on vient de recevoir, pourquoi tu le prends pas? Et puis tu prends du blanc d'argent, et tu prends de l'ocre jaune, plutôt que du jaune d'or, mais pourquoi? Et en fait, alors ça m'avait troublé son truc, hein, parce qu'en rentrant chez moi, je me suis dit, mais il a tout à fait raison, elles me tombent dans les mains, ces couleurs. Et en fait, elles me tombaient dans les yeux, elles me tombaient dans l'âme, elles racontaient ma vie, elles étaient une résolution, au fond, de ma vie. Et ça constituait un vocabulaire premier, le langage du peintre, les couleurs.
Donc le vocabulaire, le langage, et donc on en arrive à la question du code. Alors le code, c'est un mot qui peut faire peur pour un artiste, en plus surtout un artiste de l'imaginaire comme vous, Richard Texier. Un code, c'est extrêmement strict, c'est on dirait presque un cours de droit.
Oui, le code, c'est strict, sauf quand on se l'invente, qu'on a son propre code. C'est-à-dire qu'on se détache des codes du groupe. Vous savez, on est géré par les codes. Je me suis amusé à regarder ça, la préface du livre. J'inventerai tous les codes auxquels on est soumis. Enfin bon, celui-là, l'avantage, c'est code de préférence. L'avantage, c'est qu'on se les constitue, on les choisit. Ou plutôt, la vie les constitue pour vous. C'est-à-dire, ce sont les mythes... Enfin, les mythes, les rencontres, oui, ce qu'on peut appeler les mythes personnels, on en a tous les siens. Vous savez, il y a des gens qui détestent l'artichaut, puis si on gratte un peu, on voit bien qu'ils détestent l'artichaut, parce qu'un jour, au premier contact d'un artichaut, il s'est passé un mauvais truc, une personne qu'ils aimaient, la grand-mère ou la maman, l'a forcé à manger un artichaut. Et puis il y a d'autres, moi j'ai une amie qui adore les artichauts, oui. Et elle me dit pourquoi. Parce que son père l'a mis en contact pour la première fois avec un artichaut en lui montrant le monde que ça représentait. Et en effet, il y a ses premières feuilles dures, il y a des feuilles plus tendres, il y a soudain une forêt de poils qui apparaît. Dessous, il y a une sorte de galette végétale extraordinairement savoureuse. C'est toujours la même chose. Ça dépend comment on vous fait accéder au réel.
Je ne sais pas si cette musique vous dit quelque chose, Richard Texier. C'est un extrait composé par Pierre Bachelet de la bande originale d'un film. Un film sorti en 1999, un film de Jean Becker, Les Enfants du Marais, avec Gamblin, Villeray, Serrault, Dusselier, Isabelle Carré et quelques autres. Et vous êtes précisément, Richard Texier, un enfant du Marais, un enfant du Marais Poitevin.
Oui, j'ai été élevé dans le Marais Poitevin, qui est une énorme mangrove tempérée, un marais d'estuaire, mais très vaste territoire. Et j'ai été élevé là, mais au point de devenir un enfant sauvage. J'avais ma cabane, je posais mes nasses, je coupais la rivière avec des filets. J'étais très actif dans ce monde sauvage. Et ces émotions sollicitaient justement mon imaginaire et codaient à l'aune de ma fréquentation du réel, de la matrice, on pourrait dire, parce qu'un marais, c'est impressionnant, c'est une matrice. Hein. Ça a l'air faussement immobile, ça grouille à tous les étages. Et ça a évidemment énormément compté. Ça aurait pu mal tourner parce que ça a fini par les gendarmes. Hein. À 9 ans, les gendarmes sont venus me chercher pour me mettre à l'école.
Ah oui.
J'étais vraiment devenu un enfant sauvage.
Voilà, donc un enfant sauvage, un enfant du marais. Vous racontez dans votre livre, dans Codex, hein, plusieurs promenades en barque. Et on peut même dire, je crois, que votre vocation artistique est née au cours de l'une d'entre elles. Alors, on connaît tous le proverbe « rien ne sert de pleurer sur le lait renversé ». Vous, le lait renversé, eh ben, il vous a plutôt émerveillé.
Oui, c'est dramatique, hein, parce que j'aidais la personne qui était censée me surveiller, qui s'appelait Louis Amussa. Louis était un paysan, un éleveur. Il avait quelques vaches, et dans le Marais Poitevin, il fallait faire transiter les vaches par des barques, des plates, on appelait ça comme ça, des plates gigantesques. Et elles avaient un lopin de terre entouré d'eau. En général, c'était des... Bon, tout ça était très herbeux, le lait était délicieux. Et chaque soir, il fallait traire les vaches. Et un jour, j'accompagne... Mais j'étais petit, hein, j'avais 9 ou 10 ans. Oui, 9 ans, je pense. 8 ou 9 ans, je ne me souviens pas exactement. J'accompagne Louis... On traie les vaches, c'est très impressionnant. Je pense que je suis devenu sculpteur, moi, en traillant les vaches. C'est-à-dire cette masse, cette mamelle élastogénique qui va avec un soulagement, parce que les bêtes sont soulagées de leur lait. Et il y avait des grands bidons d'aluminium que Louis remplissait, qu'on chargeait dans la barque, et puis on rentrait dans le village. Et ça a été dingue ce soir-là, parce que l'eau était, comme souvent d'ailleurs en fin de journée, l'eau était noire, une eau immobile, noire, miroir parfait du ciel, et quand on passait sous les frondaisons, l'eau devenait totalement noire. Et je vois, c'est l'heure où les poissons chassent, et je vois un brochet qui saute autour de moi, je me retourne, la barque tangue, les 3 ou 4 bidons vacillent, l'un d'eux tombe, s'ouvre en tombant, dans cette eau noire, ce lait encore tiède, gras reste à la surface et se répand comme une voie lactée.
Voilà.
Et d'un coup, c'est un choc émotionnel. J'étais à la fois très perturbé, j'avais l'impression d'avoir fait une grosse bêtise, c'était le cas. Louis avait la tête entre les mains et voyait son lait se répandre. Et d'un coup, je m'aperçois que tout change, l'ordre des choses change, et je m'aperçois qu'avec de la couleur, fût-elle du blanc, on pouvait changer le rapport au réel.
Donc, Enfant du Marais, vous l'êtes donc pour le blanc et pour le noir. Le noir, c'est d'ailleurs la première teinte, hein, de votre palette que vous nous faites découvrir dans ce livre Codex. Alors là aussi, d'ailleurs, à travers un voyage en barque, hein, nous sommes au lendemain de tempête et à quelques mètres à peine de votre embarcation, gros coup de stress puisque un arbre gigantesque s'effondre, le tronc claque la rivière à quelques mètres de vous et révèle à vos yeux, là encore, un spectacle impressionnant. La suite, vous nous la racontez à la page 24 de votre livre.
Le peuplier couché présentait ses racines perpendiculaires au sol. Ce brutal changement d'axe produisait un sentiment d'étrangeté. L'ordre des choses s'en trouvait chamboulé. En tombant, l'arbre avait soulevé un mur de terreau collant. Il présentait à la verticale une levée de terre noire. Cette plaie ouverte exposait un monde souterrain, odorant. J'étais captivé par la beauté impudique et le surgissement de cette simèse incongrue dans le milieu sauvage. Son reflet ondulait dans le miroir aquatique et amplifiait sa présence austère. L'image dédoublée tremblait au moindre frémissement de l'eau. J'approchais ma barque au plus près. Je voulais toucher cette terre ruisselante argileuse. Des radicelles, des galeries de rongeurs, des lombriques, des insectes sociaux et des larves étaient brutalement exposés en pleine lumière. un peuple caché se dévoilait à l'air libre. Il colonisait les entrailles de cette terre foisonnante. Sa matière luisante et monochrome, noire d'ébène, contrastait avec le gris pâle des ciels de traîne. Venue de la puissance tellurique, cette noirceur, augmentée par une masse aussi imposante, projetait sa silhouette spectaculaire sur le territoire, habituellement d'une grande discrétion. La terre redressée évoquait une stèle. Saluait-elle la mémoire de l'arbre ? Elle convoquait en tout cas un contrepoint mémoriel. Il semblait un hommage au théâtre de cet environnement fragile. Alentour, les valeurs colorées, les algues vertes et les berges brunes, par effet de contraste, s'en trouvaient renforcées, illuminées. L'arbre abattu par la violence des rafales suscitait des sensations inattendues. Ses racines offraient à ma conscience d'enfant une tonalité noire très singulière. Elle me marquait par une absence de couleur, ce qui est l'un des rôles traditionnels dévolus au noir. Tout au contraire, elle révélait l'évidence d'une matière sombre, dense et opaque, et affirmait son mystère, sa captivante faculté de transmutation. Ce noir, venu des entrailles du marais, était habité, il grouillait de vie. Quelques jours plus tard, séché par le vent, il devint poudreux. Des veines brunes aux traces ocre rouges apparurent en surface, affleurant les racines. Elle réchauffait la noirceur organique de ce compost habité. Un sang épais irriguait cet être végétal. L'arbre affaissé, seigneur déchu de ce sanctuaire naturel, semblait la colonne d'un temple panthéiste dont la fondation, subitement redressée dans l'espace, révélait la couleur emblématique des profondeurs de la terre.
Et c'est donc ainsi, Richard Texier, que vous avez été révélé. Vous utilisez d'ailleurs ce mot révélé, le noir que vous utilisez dans votre art, un noir que vous qualifiez vous-même d'organique. Et cet adjectif organique revient extrêmement souvent hein, dans le livre, quasiment à propos de chacune de vos couleurs, comme si seule la vie, finalement, pouvait générer de l'imaginaire.
Je crois ça. Et puis, vous savez, c'est l'émotion qui nous rend intelligents. Les neurologues m'ont expliqué ça depuis, c'est l'émotion qui code le cerveau. Avec une nouvelle émotion face à lui, une nouvelle émotion électrique, irrigante justement, se présente au jeune enfant et il n'a pas les moyens de la traiter. Et son cerveau sort une carte mère, va chercher dans le fond brownien du cerveau des dendrites, des neurones, construit un circuit électrique et fonde, au fond, un rapport au réel nouveau lié à une émotion mystérieuse qui vous renverse. C'est-à-dire qu'on est intelligent par l'émotion. On l'oublie tout le temps. C'est pas une matière exacte. C'est pas une science exacte, l'émotion. Mais c'est un flux électrique qui nous rend plus intelligents.
Mais c'est donc des années après que vous vous êtes rendu compte de tout cela, parce qu'évidemment tout cela était complètement inconscient. Et ce qui est drôle, c'est que le noir, vous l'expliquez par l'arbre, et vous l'expliquez aussi par le papier, à travers un autre objet, à travers des livres, dans le rayonnage d'une bibliothèque, des livres noircis par un incendie. Là aussi, ça se passe pas très très loin de chez vous, dans la maison du père d'un ami. Et on retrouve justement ce caractère organique-là, puisque c'est un noir de combustion.
Oui, mais c'est ça qui est merveilleux avec la vie de l'esprit, c'est qu'elle n'est pas fermée. Au fond, il y a des entrées latérales tout le temps. L'imaginaire est une matière en évolution. Et en effet, j'utilise maintenant un noir organique, poudreux, très profond, en même temps volatile. C'est volatile, ça veut dire il contamine un peu les couleurs à côté de lui. Je le vois dans mes tableaux. C'est pas un noir qui arrive comme un signe fermé. C'est un noir qui se répand, qui s'insinue. Et toutes les rapports à mes couleurs. Alors évidemment, j'ai été élevé dans ce marais que vous décrivez. Donc évidemment, beaucoup de mythes sont nés dans cet endroit. Et puis c'est une nature qui est tellement spéciale, tellement foisonnante, mystérieuse. Elle m'a beaucoup irrigué l'imaginaire. Mais je crois que ce qui est vrai pour moi est vrai pour tout un chacun. Ça se passe pour nous tous, ça se passe de cette façon-là.
Pour tout un chacun, sauf qu'il faut quand même avoir, Richard Texier, cette capacité d'émerveillement. Je ne sais pas si c'est inné ou si ça s'apprend tout simplement, mais on ressent très souvent dans ce livre la capacité d'émerveillement qui est la vôtre. Par exemple, à propos d'une autre couleur, à propos de l'ocre, donc du jaune, vous racontez un séjour dans les falaises de Roussillon. Alors là, on n'est plus du tout dans l'ouest de la France, dans le Marais Poitevin, on est dans le Luberon, dans le sud de la France, et vous vous émerveillez comme un éternel gamin.
Bah, écoutez, si vous y êtes allé un jour, et tous ceux qui y vont sont totalement émerveillés. Le monde a une capacité d'émerveillement pour tout un chacun. Évidemment, les enfants sont plus réceptifs à l'émerveillement.
Mais il faut être disponible. Il faut avoir l'esprit disponible à l'émerveillement.
Vous voulez que je vous dise, je crois que c'est un état d'esprit, que c'est presque une technique. Il faut être disponible. Faut pas être trop enfermé dans sa propre histoire. Il faut accueillir. C'est surtout les rencontres. Ça peut être les rencontres d'un paysage. Ça peut être la rencontre d'une situation, c'est souvent la rencontre d'un être ou d'une communauté. Il faut être ouvert à ce que vous offre la vie.
Mais par exemple, la vie peut vous offrir des plats cuisinés donc par votre grand-mère, par exemple, avec cette couleur safran qui rappelle justement cet ocre jaune des falaises de Roussillon.
J'appelle ça le bonheur ocre jaune de mon enfance.
Voilà, il y a la robe du cognac aussi, puisque là on revient effectivement dans la région. Et c'est vrai que votre grand-mère, elle est aussi très présente dans le livre. Et à travers un héritage qui est peut-être... plus concret, celui-ci, le contenu d'un petit coffre qu'elle vous a laissé, que vous avez découvert après sa mort. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit coffre, Richard Texier?
Oh, c'est très étonnant, quand ma grand-mère, qui s'appelait Clotilde, qui était d'origine catalane, elle est décédée par chance pour nous assez tardivement et plutôt en bonne forme. Mais elle voulait absolument rien laisser d'elle. C'est-à-dire, elle voulait que ses affaires soient en ordre. C'est elle qui disait ça. C'est une femme très pauvre. Et en effet, pour tout héritage, j'ai eu une caisse en bois. Je sais pas ce qu'elle en faisait de cette caisse. Elle avait été peinte des dizaines de fois. Donc c'était vraiment une très vieille caisse en bois de la taille à peu près d'une caisse de vin. Et quand je l'ai ouvert, c'était sidérant. Parce qu'on ne jette rien chez moi. C'est-à-dire que tout a de la valeur. Tout est précieux. Tout doit être.
Faut pas gâcher.
Tout doit être recyclé. Elle était très, sans le savoir, elle était très écologiste avant l'heure. Et elle gardait notamment les ficelles. Très souvent, les paquets arrivaient avec des ficelles plus ou moins grosses. Et elle gardait les ficelles, elle les réunissait, elle les pliait, je sais pas comment on dit pour les ficelles, et ensuite, elle les étiquetait, elle mettait à côté la longueur de la ficelle et sa matière. Parce que la matière est liée à la solidité. Et quand j'ai ouvert cette boîte, je me demandais bien ce que ma grand-mère m'avait laissé post-mortem, une boîte pour Richard. Il y avait écrit dessus. Sur le coffret. J'ouvre, et là, je vois une cinquantaine de bouts de ficelle. Et là, je m'interroge, quel est ce
message par-delà la mort?
Quel est ce message incroyable? Quel est ce lien végétal qui doit me relier au monde que ma grand-mère m'offre? Et je vous assure, j'ai tourné ça 20 fois. J'ai fini quelque temps après les avoir sorties toutes. Il y en avait des grosses comme le petit doigt, mais la plupart étaient plus petites. Et j'ai fini par les utiliser dans mes tableaux.
Vous avez mis un point d'honneur à le faire.
Je voulais le faire. Je voulais recycler l'héritage de ma grand-mère, qui était en effet une femme de lien, qui était en effet très attentive au végétal, qui avait un très joli jardin, et qui me laissait une occasion de réfléchir sur le monde et sur le recyclage des matières et sur l'utilisation mentale qu'on en fait.
Voilà, un lien organique, encore une fois, oui. Richard Texier. Alors, beaucoup de souvenirs familiaux dans ce codex que vous publiez chez Gallimard. Il y a aussi alors là, je pense qu'il faut utiliser le mot cérémonie, parce que c'est ça, quoi. Ces grandes cérémonies familiales chez votre oncle, je crois qu'un, Eddie, c'est ça, qui était bouilleur de cru et qui fabriquait une gnole, c'est le mot que vous employez. Et là, vous donniez rendez-vous avec d'autres jeunes garçons pour fouler aux pieds les grappes de raisin. On a tous en tête à cette image de l'histoire du Moyen-Âge. Vous voyez effectivement les gens fouler aux pieds le raisin pour faire la vigne. Là, on a presque l'impression d'un rite, d'un rituel chorégraphique.
Oui, ça nous réunissait. Ça nous réunissait, puis en même temps, en l'occurrence, il avait planté son jardin de variétés hybrides. D'Oberlin, de Van Noah, d'Isabelle, le cépage Isabelle. Et on n'avait pas le droit de faire ça à l'époque, parce que c'était un vin qui était chargé d'éthanol et qui était très dangereux pour la santé, qui rendait bredin, on disait dans le village.
Bredin, d'accord, voilà. Oui.
Et évidemment, on faisait ça clandestinement. On fermait les portes du chai, on barrait la porte, vous savez, la porte du chai, on la barrait avec une grande barre de bois. Et puis là, on pouvait tous... La vendange durait quoi, une matinée. Mais quand même, on avait de quoi remplir deux grands foudres. Et en effet, il fallait ensuite les piétiner, écraser les graines, etc., de vin de Noah, et qu'on se partageait, la famille se partageait, ce vin qui rendait fou.
Voilà, et en l'occurrence, votre oncle disait, c'est du violent. Alors là, c'est assez drôle, parce qu'on sourit à ce moment-là, et on se demande, mais quel est le rapport, évidemment, avec la couleur, on peut se dire, voilà. Et il disait, c'est du violent, et vous vous glissez, c'est du violet.
Mais voilà. J'entendais ça. C'est du violent, parce qu'en effet, c'est la gnôle qui faisait avec le marc du raisin, et il rajoutait des fruits pourris. Et elle était totalement infâme. Hein. C'était oui. Il avait un privilège de bouilleur de cru qui lui donnait le droit à 20 litres. Partout dans le village, 20 litres, c'était, il y a des rives naturelles, c'était une centaine de bouteilles qu'il offrait autour de lui. Et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, c'était, et il apportait ça en disant, c'est du violent. Et moi, j'entendais c'est du violet parce que j'avais le souvenir de mes petites pattes d'insectes qui ruisselaient de raisins d'Isabelle et de Noah, qui étaient violacés, qui moussaient, enfin, comment faire, voilà. On était avec mes cousins enlisés jusqu'au torse et on piétinait, on se dépensait au milieu de ces foudres. Et évidemment, le violet, moi, mon tropisme sur le violet, il est né là, c'est évident. C'est. I wanna go where the trouble begins. And the morning after smells just like a dirty ashtray. Oh, give me shame, lock me in the shower. The penitentiary, elementary school for losers. If this is how it's gonna end, then it feels alright.
Holly Toledo, la nouvelle chanson du groupe californien Green Day dans VMDN sur RFI avec le peintre et sculpteur Richard Texier qui nous fait découvrir son code couleur dans Codex paru chez Gallimard et ses animaux quantiques chez le même éditeur. Alors, il y a des couleurs, il y a aussi des odeurs hein, dans votre Codex, Richard Texier. Pas toujours très agréable d'ailleurs si l'on croit à l'étymologie du mot qui définit le vert de votre palette de peintre. Il s'agit d'un vert cinabre, et étymologiquement en grec, je suis allé vérifier, ça vient de kinabari, qui se traduit par de mauvaises odeurs. Et c'est pourtant dans le chapitre sur ce vert cinabre que se trouve, pour moi, l'histoire la plus étonnante et la plus merveilleuse du livre. Ça se passe à Bangkok, en Thaïlande, donc dans une boutique tenue par un homme plutôt boudeur, hein, pas franchement sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous essayez de le dégeler un peu, hein, ce commerçant. La conversation menace vite de tourner au vinaigre quand l'ami qui vous avait donné rendez-vous à cet endroit finit par arriver. Et la conversation dérive sur un objet assez énigmatique, une pierre oblongue, une pierre de couleur brune, on n'est pas encore au vert, de couleur brune, que le vieil homme en question appelle Skystone. La suite, on la découvre à la page 131.
Le vieil homme se saisit à nouveau de l'objet. Il me regarde avec malice et esquisse un léger sourire. Lentement, il fait l'un des plus beaux gestes qu'il m'ait été donné de voir. J'en frissonne d'émotion. Il place le galet rugueux entre mon regard et l'ampoule de la lampe. Un verre lumineux irrigue soudain la pierre. Sa lumière éclaire simultanément la pièce et nos esprits fascinés. La structure minérale est totalement translucide. Un monde immense apparaît sous mes yeux. Des forêts luxuriantes, des mers limpides, des courants marins, des fleuves et des lagons surgissent au travers de cette irisation. Je crois même y apercevoir le marais de mon enfance et la couleur vert cinabre de ses conches. Skystone est un univers à elle seule. Je suis transporté par la beauté de cette planète de poche, gorgée de vie. Aucun doute n'est possible, je suis immédiatement convaincu de son pouvoir céleste. Je la reprends avec délicatesse dans mes mains. Sous sa peau rêche, la masse inerte semble palpiter. Serait-elle un être ? L'énergie d'un génie assoupi ? En tout cas, je l'aperçois comme un ferment pour l'imaginaire. Cette découverte surprenante m'exalte. Je ne peux plus me passer d'elle. Il me faut absolument rapporter cette chose à mon atelier. Je dois en explorer la capacité de fécondation, déployer son extraordinaire pouvoir d'évocation, d'inspiration. Fong, je m'adresse au marchand plutôt qu'au chercheur que vous êtes. S'il vous plaît, dites-moi le prix de cette pierre.
Elle n'est pas à vendre.
Permettez-moi d'insister.
Non, je suis désolé, je ne peux la vendre. Un tel vestige funéraire est hors du cercle de l'argent. Il appartient au rite de transfert. Son rôle est d'accompagner le cycle des métamorphoses.
Justement, Skystone m'aidera à créer. Tanom comprend ma déception et essaie de plaider ma cause. La nature de leur échange en thaïlandais m'échappe tandis que je continue à contempler et convoiter Skystone. Je la place à nouveau devant l'ampoule. Chaque détail de sa texture opalescente m'évoque des continents, des arbres ou des montagnes. Des nuages d'altitude traversent son ciel, des tempêtes de sensations et des vents de l'esprit circulent aussi dans ce cosmos ambulant. La puissance évocatrice de cette machine à rêver érotise mon imaginaire. Me séparer de cette découverte sera un déchirement. Je ne peux me résoudre à en accepter l'augure. Pourtant, vient le moment de prendre congé. Nous quittons à regret la boutique de cet étrange archéologue. Fong nous accompagne avec déférence sur le pas de la porte. Au moment de nous quitter, il me tend un sac en papier et me glisse à l'oreille.
Un océan de richesses ne pourrait l'acheter, mais je peux vous l'offrir.
Voilà, quelle belle fuite, quelle belle histoire. Richard Texier, c'est vraiment un recueil de nouvelles, hein, ce livre Codex, parce que vous y mettez évidemment tout votre imaginaire, tout votre amour et tout votre style aussi. Vous êtes un écrivain, on le sait, on a encore cette capacité d'émerveillement qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, est-ce que Skystone a tenu ses promesses ? Est-ce qu'elle vous a effectivement aidé à créer ?
Ah oui. Non mais, je vous assure que l'histoire est vraie et que l'objet existe. Je vous assure.
Vous l'avez toujours ?
Je l'ai toujours. Je le regarde régulièrement. Je l'ai montré à des spécialistes. Personne ne sait la nature de cette pierre qui ressemble, qui est très rugueuse. On a l'impression que c'est un... Je pensais d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, à un morceau d'un tronc d'arbre pétrifié. Et la matière extérieure semble du bois pétrifié. Mais quand on la met face à une lampe, elle devient translucide. C'est complètement dingue. Moi, je me suis pas remis. Régulièrement, je vais à cette source magique. Moi, je crois qu'on vit dans un monde magique. On est entouré. On veut pas le voir parce qu'on est des Occidentaux, singulièrement des Français, cartésiens, etc. On veut pas voir la magie qui est autour de nous. Et pourtant, elle opère sur les tableaux. Un peintre au travail. Et au bout d'un temps, la magie opère. C'est-à-dire à travers les couleurs, à travers quelque chose de plus grand que lui se passe sous ses yeux. Et c'est ce phénomène-là qu'on essaie de reproduire quand on est peintre. On s'en lasse pas de ça.
Alors il y a un phénomène que vous avez contribué à définir, vous avez d'ailleurs employé le terme tout à l'heure, c'est le terme d'élastogenèse, et on découvre d'ailleurs dans Codex un tableau intitulé Élastogenèse, hein, un petit peu plus loin, tableau avec ce vert cinabre qu'on évoquait à l'instant.
C'est juste, je l'ai sous les yeux aussi, et en effet... L'élastogénèse, qui est une... Alors ça nous entraîne sur un autre livre.
C'est une sorte de plasturgie du rêve, c'est ça, de l'imaginaire.
C'est une théorie de la souplesse aussi. C'est une force qui vit parmi nous, que dans le champ du vivant et de notre vie quotidienne, qu'on perçoit par le bâillement ou par le rire, rien n'est plus élastogénique que le rire, qui assouplit tout, y compris l'esprit, qui rend les conversations possibles, qui est le plus court chemin entre deux êtres. Enfin bon, le rire est une des expressions élastogéniques de cette force, et une expression humaine, mais il y en a beaucoup d'autres. Là, et j'ai essayé de décrire, et je l'utilise dans mon œuvre, est pour partie un champ exploratoire élastogénique.
Et pour vous, chaque étape de la création est nourrie par l'exploration, donc par l'observation et par les sensations de la nature. On peut dire que c'est ça la matrice principale.
C'est dire le monde sous sa forme la plus extraordinaire. C'est-à-dire un peintre. Je ne sais pas dire ce que je suis, le parcours que j'ai suivi. J'ai l'impression que c'est consubstantiel de ce que je fais. Non, c'est mon Graal, c'est plutôt de dire l'extraordinaire complexité, l'extraordinaire souplesse de la nature et du monde qui nous entoure. Mon œuvre est panthéiste, je célèbre la nature depuis le début, j'y suis né, elle m'a tout donné. Et c'est ça que j'essaie de dire dans mes œuvres.
Voilà, la nature est un modèle indépassable, hein, vous le dites à propos de Léonard de Vinci, un de vos glorieux prédécesseurs s'il en est. Vous évoquez Vinci dans le chapitre que vous consacrez à l'indigo, hein, à ces fameux sfumati qui donnent justement cette impression d'infini, hein, qu'on lui connaît. L'indigo, pour vous, c'est une invitation au voyage.
Mais Vinci, il dit une phrase mystérieuse. Il a écrit un traité, le traité de la peinture, Trattore de la Pittura, où il s'adresse au jeune peintre et il lui donne un certain nombre de conseils très concrets, très techniques. Et notamment un qui m'avait beaucoup marqué parce que je voyais absolument pas ce qu'il voulait dire. Il dit à un moment, s'adressant au jeune peintre, et tu dégraderas un indigo. Dégrader, ça veut dire dégrader la puissance colorée d'une couleur, justement à travers ces sfumati, qui sont la signature de la peinture italienne, singulièrement de Vinci. Et en effet, j'ai essayé. C'est-à-dire, j'ai pris du blanc d'argent transparent, je l'ai mélangé à de la stendolie, qui est de l'huile de lin polymérisée, transparent aussi, et j'y ai ajouté une pointe d'indigo. Et c'est dément, ça marche. Tu dégraderas un indigo, c'est-à-dire que d'un coup, l'air pénètre la matière. C'est ce qu'on voit dans les tableaux de Vinci. Je dis pas que je le fais aussi bien, mais
vous avez essayé, vous confirmez que
ça marche et j'ai compris ce qu'il voulait dire.
Ouais, et là encore, l'indigo provient du vivant puisque c'est extrait d'une plante à la base qui s'appelle l'indigotier. Alors du pigment au piment, il y a qu'une lettre d'écart, Richard Texier. Et pour vous, le piment, c'est un piment rouge. Le rouge, c'est une épice. Le rouge est un éclat, écrivez-vous. La nature l'utilise d'ailleurs ainsi. Et pour l'artiste, eh bien, vous conseillez de l'utiliser avec prudence, avec parcimonie. Il n'en faut point trop.
Oui, parce que c'est une couleur contaminante. Un certain nombre de peintres, dans le passé, Corot l'utilisait très peu. Il faut vraiment l'utiliser comme un... D'ailleurs, souvent, dans la nature... le piment est rouge, par exemple. Le bouton de la fleur qui s'agite fécondée, le coquelicot, est rouge. Il faut que ce soit une présence discrète, utilisée effectivement avec beaucoup de prudence. Et le rouge, pour un peintre, si on se répand dans le rouge, j'essaie de chercher en vous parlant si des peintres l'ont déjà fait, ça. Eh ben, ça marche pas. C'est-à-dire, c'est une couleur qui a la capacité de saturer.
Et pourtant, il y a dans Codex des exemples de tableaux, puisque le livre, à chaque chapitre, a sa petite collection de tableaux qui correspond aux couleurs que vous venez de décrire et dont vous venez de raconter les origines pour votre palette à vous. Il y a aussi un chapitre consacré justement à des œuvres où le rouge explose, rouge éclate.
Vous l'avez
pas utilisé tout le temps avec parcimonie,
non,
Richard
Texier. Parce que quand on découvre ça, moi je mets toujours à l'examen ce que je dis et ce que je fais. C'est-à-dire, quand on me disait, je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, dans les écoles des Beaux-Arts, on disait, il faut jamais mettre du rouge avec du violet. évidemment, rentré à l'atelier, j'avais qu'une idée, c'est de faire un tableau rouge et violet.
Forcément.
Et oui, et il faut, et on peut le faire. Vous savez, on peut à peu près tout faire dans la vie. C'est une question de délicatesse et de style.
Mais donc, un artiste, c'est dépasser les limites, c'est aller vers l'interdit, c'est flirter avec l'impossible.
Oui, essayer de se rapprocher tout du moins de la pleine lumière. On sait très bien qu'on va être carbonisé si on s'approche de trop près, mais c'est tout de même le chemin. Il faut aller vers l'incandescence.
L'aventure Casablanca, smoking blanc, store cassé, pianiste. Panama, rêverie, bourbon, ventilo, beau joueur, beau salaud, sans cœur. Capitaine largué comme dans African Queen, instable, équilibré par la dope et le spleen. La voudrais-tu fatale pour l'amour et le lit? Longue et diagonale vers l'autre galaxie. Samouraï aux yeux dorés, tu n'es jamais fatigué. Va comme un voleur de feu, va où tu veux. Tu prendras ce qu'il y aura, l'amour, l'argent, le combat. Ne garde rien, souviens-toi, meurs où tu dois. Va où tu veux. Va où tu vois, va où tu veux, va où tu vois. L'aventure au bout du fusil, ciel d'azur, tropique, musique, mariachi, mal rasé sous les cartouchières, tu riais. Ta photo en un seul exemplaire. Toi le voleur de feu traversant le désert pour voir les cocotiers se pencher à l'envers. Toi qui viens de Norvège, raconte-moi la neige. Naufragé volontaire, raconte-moi la mer. Samouraï aux yeux fermés, citadelle immergée, vent de sable et ciel de feu, va où tu veux.
Voleur de feu, extrait de l'album éponyme en hommage de Bernard Lavilliers au poète Arthur Rimbaud, et c'est Rimbaud en voleur de feu que convoque Michel Onfray dans la préface de l'autre livre que vous publiez chez Gallimard, toujours Richard Texier, Animaux quantiques, et c'est lui, hein, Michel Onfray, le philosophe qui nous fait entrer dans ce bestiaire que l'on a pu découvrir il y a 2 ans à Paris lors d'une exposition à la galerie Downtown. Il faut être voyant, se faire voyant, dit Michel Onfray, qui cite donc le poète. Autrement dit, il faut s'éveiller à l'inconnu. Est-ce que vous êtes un voyant au sens rimbaldien du terme, Richard Texier?
Oui, en tous les cas, l'inconnu est un appel pour moi. C'est-à-dire que, y compris... alors ça, c'est marrant parce que... On a l'impression, quand je fais un tableau, je pense pas à mes mains. C'est mon esprit qui galope sur la toile. C'est éventuellement les pinceaux que je vois dans ma focale de travail. Mais j'imagine pas que mes pinceaux sont tenus par la main. En revanche, la sculpture, c'est mes mains qui se mettent en marche et qui prolongent. C'est comme si l'esprit, ou ce que je veux, l'imaginaire, coulait à travers mes bras et mes mains, et je transformais la matière. Et donc, toutes ces formes, ces animaux, là aussi, célébration panthéliste, découle des mains.
Découle des mains, comme le lait du pied de la vache qu'on évoquait tout à l'heure.
Mais oui, ça paraît presque naïf de dire ça, parce que ça paraît évident. En réalité, c'est une question d'incarnation. C'est-à-dire que j'en ai profondément conscience. C'est mes mains qui s'agitent. Vous savez, les mains d'un être c'est extrêmement sophistiqué. Ça fait appel à des zones du cerveau invraisemblables. Le cerveau est en feu, en réalité, quand les mains se mettent en marche pour faire une sculpture.
Vous êtes donc un démiurge, un créateur de monde, hein, c'est ce que signifie ce mot, à travers ces animaux quantiques, hein, comme l'écrit Michel Onfray. Alors, vous avez pensé à coller cet adjectif quantique à votre travail avant Michel Onfray, Richard Texier ?
Alors, soyons francs, pas du tout. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, ce sont des sculptures d'usage, des sculptures que j'aime utiliser pour des coupes, pour des lampes, des chandeliers, que sais-je encore. Et je l'ai fait pour ça, pour qu'elles soient proches de notre quotidien, qu'elles soient sur notre table, qu'elles soient pas loin de nous. Et Michel Onfray, voyant tous ces objets, voyant ces animaux, connaissant ma manière que j'ai de travailler, a eu cette intuition quantique. Alors, quelle est la constante de Planck de cette affaire? J'en sais rien, puis je préférerais qu'il le dise avec ses mots. La préface est ardue, mais elle est juste. C'est un philosophe, Michel Onfray. Oui. Donc, il sait penser. Il sait ce que c'est, un métier de penser.
Oui. Alors, c'est un philosophe, et en même temps, c'est aussi un peu un poète, parce qu'il vous désigne comme la doublure d'un archéologue des étoiles, un spationaute de l'espace intérieur, un marcheur des cosmogonies perdues.
Oui, parce qu'il a compris, en venant à l'atelier aussi, il a compris que j'étais un chercheur compulsif, que j'arrivais pas à me satisfaire des choses. Il faut absolument que j'intervienne sur que je mange, j'assemble, que je modifie, que je mette en perspective, y compris avec le temps. C'est-à-dire que j'aime l'idée que ces pièces que vous avez sous les yeux, qui sont reproduites dans le livre, j'aime l'idée que les retrouvant, qu'un archéologue du futur les retrouvant dans la Terre, ne sache pas dire à quelle tradition elles appartiennent.
Alors justement, prenons un exemple concret, prenons l'œuvre qui figure sur la couverture du livre. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Richard Texier, et nous dire comment vous l'avez façonnée, dans votre tête et avec vos mains?
Alors ce qui est amusant, c'est que là, il s'agit d'un chandelier. Et un chandelier, c'est une panthère, une sorte de panthère des rochers, qui est très liée au monde aqueux, à l'estran, et qui est en chasse. Comme souvent, les fauves sont en chasse. Et elle est en chasse parmi d'une sorte de nénuphar mythique. Ce qui est intéressant, parce que moi je l'ai expérimenté avec cet objet, je m'en suis fait un pour moi, une épreuve d'artiste. Quand les bougies sont en place, et que ce chandelier qui a 7 bougies, ou 5 bougies, je ne me souviens plus, est au milieu de la table, et bien curieusement, la chandelle vacille et fait vivre cette scène de chasse. D'un coup, les animaux prennent vie. C'est vrai que c'est la lumière qui donne la vie. C'est la lumière qui donne la vie à un tableau, mais c'est aussi la lumière qui donne la vie à une sculpture. Et j'aime cette idée que le bronze, qui est un matériau pour traverser le temps, qui est, vous savez, le bronze a une capacité absolument incroyable. Ces pièces, on les oublie dans la terre pendant 10 siècles. Elles sont intactes, elles sont plus belles, parce que la peau de la sculpture, ce qu'on appelle la patine, sera encore plus belle qu'aujourd'hui. Mmh. Et surtout plus juste, plus vrai. Et moi, ça me plaît que d'envoyer un message comme ça. Alors, c'est un peu fou de penser ça, mais probablement un jour, quelqu'un les retrouvera. Peut-être on se souviendra de Richard Texier, peut-être pas. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura envie d'y mettre une bougie et de voir la panthère continuer de chasser.
Mais alors justement, c'est cette lumière que ces animaux contribuent à porter ou à accompagner, elle éclaire le présent, elle éclaire le futur ou elle éclaire le passé, Richard Texier, pour vous?
Vous savez, c'est ça la mécanique quantique. Annulation du temps. C'est écrasement du temps. C'est-à-dire les choses, on sait bien, la mémoire le fait, l'émotion le fait. Vous savez bien, quand on est heureux, quand on aime une femme, quoi, le temps est complètement compressé, le temps n'existe plus.
Alors on vous voit dans le livre en photo avec un chalumeau à la main, en train de sculpter à votre table de travail dans un atelier. On vous voit peindre aussi dans votre atelier de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris. On vous voit aussi en haut du phare de Cordouan, en Gironde, là on est dans le sud-ouest de la France. C'est autour de ce phare que vous nous emmenez dans l'ultime chapitre de Codex. Alors on est dans le blanc du brouillard girondin, hein, vous retrouvez complètement perdu. Et à ce moment-là, il se passe plein de choses dans votre tête. Et c'est ça que vous nous expliquez au fond, cette espèce d'énergie incroyable, cette espèce de tourbillon dans votre crâne. C'est quelque chose d'assez vertigineux.
Le phare est un monde vertical. Je suis resté 8 semaines là-bas Et à un moment, il est là pour signaler des hauts fonds dangereux, et notamment un banc de sable tournant qui fait 5 km de long, qui est un monde parfaitement horizontal cette fois-ci. Et quand on vit tout le temps dans un monde vertical, on a envie d'aller galoper à l'horizontale. C'est ce que je faisais à marée basse. Sauf que les gardiens m'avaient prévenu, on était en plein été, fais attention, parce que parfois il y a un brouillard de chaleur qui tombe subitement, et là on peut se perdre, on ne sait plus où on est, la corne de brume du phare ne sert pas à repérer l'endroit du phare, le son circule, on est perdu. Et ça va très vite et c'est dramatique, parce qu'il me dit, dans ces cas-là, Serge, le gardien du phare, me dit, il n'y a pas 36 solutions, tu essaies de repérer le rivage, c'est une langue de terre de 5 km, hein. Tu essaies de repérer le rivage, et là, quand tu es face à l'eau, tu choisis. Tu cours, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais tu choisis ta direction. Et tu cours. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que si on part du mauvais côté, on a presque 10 kilomètres, 7 ou 8 kilomètres à faire dans le sable humide, et moi, j'étais pas sûr d'être capable de le faire. Et je pensais, ce jour-là, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir, que le sable, la mer, le brouillard allaient m'engloutir. Et un blanc, le blanc du brouillard, de cette brume épaisse, brume d'été, est venu tout annuler les couleurs. La mer émeraude, l'ocre jaune du sable autour de Cordouan, le ciel bleu de l'été, tout était annulé par ce brouillard, tout devenait blanc, comme une sorte de palimpseste, la résolution des couleurs. C'est le palimpseste de toutes les couleurs finit par un blanc.
Voilà, et à la fin du livre, le brouillard se dissipe, vous êtes avec tout, donc ça veut dire que vous n'êtes pas resté coincé à l'intérieur. À la fin du livre, le brouillard se dissipe, et c'est un vrai soulagement pour vous, et ce blanc, c'est donc une sorte de révélation, une révélation par la lumière qui vient non pas du phare, mais paradoxalement, c'est du brouillard que surgit en quelque sorte la lumière, et c'est ainsi que se termine le livre, et c'est vraiment une très très belle image. Merci beaucoup Richard Texier d'être passé nous voir.
Merci de m'avoir accueilli.
Codex et Animaux Quantiques, deux livres parus chez Gallimard. Animaux Quantiques que vous allez signer hein, d'ailleurs mardi 16 novembre à la Galerie Downtown au 18 rue de Nice à Paris. Rendez-vous est pris. Rue de Seine, effectivement, Rue de Seine, Paris, bien sûr, évidemment, pas très loin de l'Académie des Beaux-Arts, où siège d'ailleurs notre invitée de demain, Catherine Meurice, l'autrice de bande dessinée. Son nouvel album s'appelle La jeune femme et la mère. Il est paru chez Dargo et vous m'en direz des nouvelles.
RFI.